Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
Salut, ça va?
Bienvenue sur le podcast Salut, ça va? By Take Care. Tous les 15 jours, on papote santé mentale, dev perso et surtout comment mener une vie ambitieuse en prenant soin de soi et des autres. Alors enfilez vos écouteurs, mettez-vous à l'aise et plongez avec moi dans une conversation qui, je l'espère, vous fera du bien. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur takecare.co pour découvrir nos coachings en ligne. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va. J'espère que vous passez un bon lundi matin si vous écoutez ce podcast au moment où il sort ou que vous passez une bonne semaine si vous le rattrapez en cours de route. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'une question qu'on me pose énormément, qu'on me pose aussi à Samuel, mais alors on la pose davantage à moi. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est malheureusement celle que j'ai déduit, c'est-à-dire je suis une femme, je suis la femme du couple, c'est cette fameuse question du deuxième enfant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne souhaite pas de deuxième enfant? Samuel a parlé du fait qu'il avait eu recours à une vasectomie, donc ça a été plutôt un choix réfléchi et qui a mené à des actions et des décisions en ce sens. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de répondre à cette question, sachant qu'il y a un moment donné où je parlais plutôt de l'envie ou de la possibilité en tout cas qu'on ait un deuxième enfant. Donc je suis pas tellement revenue dessus, et c'était intéressant pour moi de vous expliquer les raisons et de parler aussi de toute cette pression qu'on peut avoir. Alors déjà autour de la maternité en général, hein, déjà rien que le fait d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans les questionnements des proches, des moins proches, des institutions, parfois de personnes que vous ne connaissez même pas, qui se permettent vraiment d'émettre un avis, un jugement et même des recommandations, parfois sur un truc qui ne les concerne absolument pas et surtout qu'ils ne maîtrisent pas, puisque quand même, il faut le rappeler, tout le monde ne peut pas avoir d'enfants, tout le monde ne souhaite pas avoir d'enfants, et c'est une question qui est extrêmement pesante et indélicate, surtout pour les femmes à qui on la pose, parce que vous ne savez pas à qui vous adressez en fait. On ne sait jamais à qui on s'adresse, peut-être qu'on s'adresse à une personne qui galère avec des problèmes d'infertilité depuis des années, à un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, à un couple qui a eu un enfant et puis qui a perdu un enfant, un couple qui a fait une fausse couche, il y a plein de scénarios possibles, et en fait on ne sait jamais à qui on s'adresse quand on pose cette question, surtout à des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc ça peut réveiller des sentiments et des émotions hyper désagréables, et c'est dans tous les cas très intrusif, et c'est vraiment un truc moi que je ne fais plus. En tout cas, c'est vrai qu'on discute de parentalité et de possible maternité avec mes copines, avec mes amis, etc., mais jamais sous ce truc là de ah bon, mais tu veux pas d'enfant, quand est-ce que vous prévoyez d'avoir un enfant, mais c'est dans tes plans, pas dans cette optique là d'attente en fait et d'injonction à la maternité. Et puis alors, ce qui est assez étonnant, c'est que même quand vous avez un enfant, on ne vous lâche pas avec cette question, puisque à peine accouché, on vous demande déjà est-ce que vous en voulez un deuxième. Je crois que ça continue, hein, finalement quand on en a deux, on nous demande si on en veut trois, etc., etc. Je ne sais pas à combien ça s'arrête, au moment où on considère que c'est trop, puisque ce n'est jamais comme il faut. Soit c'est trop, soit c'est pas assez, on connaît la chanson. Donc quand on se fie au regard de l'autre, très souvent on se rend compte qu'on ne rentre jamais tout à fait dans les cases de ce que chacun attend de l'autre et de la normalité. La notion de norme est quand même quelque chose d'assez personnel et subjectif dans ce type de questions, puisque en fonction de votre éducation, de vos ressources, de votre culture, de votre environnement, etc., de vos valeurs bien sûr, vous n'avez pas la même réponse à cette question. Est-ce qu'on lâcherait pas un peu l'utérus des femmes, et arrêtons d'être oppressants avec ces questions qui peuvent mettre très mal à l'aise et réveiller des trucs pas hyper cool. Ça, c'était pour la petite introduction, un peu coup de gueule sur le sujet, parce que vraiment c'est quelque chose d'assez récurrent, et moi-même sur les réseaux, avant de dire qu'on ne souhaitait pas de deuxième enfant, avant que Samuel parle de la vasectomie, à chaque fois que j'avais un ventre gonflé, à chaque fois que je disais que j'avais la nausée, à chaque fois que je disais que j'avais mal au ventre, je recevais des messages en me disant « mais t'es peut-être enceinte, oh ça sent le deuxième », et ce genre de choses en fait, ça devient juste insupportable, parce qu'on n'ose plus être dans une certaine forme de vulnérabilité par rapport à ça, parce que tout nous ramène à cette maternité, à ce rôle-là, comme si vraiment c'était
un rôle de prédilection et que finalement une femme ne vit uniquement que dans le but de procréer et son corps n'a de symptômes que ce qui se rapporte à la maternité. Or, on le sait, hein, un corps de femme, ça peut surtout avoir beaucoup de petits problèmes, de variations hormonales qui induisent pas mal de symptômes qui peuvent être semblables à ceux de la grossesse mais qui ne le sont pas du tout. Et d'être ramené à ça souvent, c'est assez insupportable. Et je pense que ça participe au fait de taire certains maux, notamment on l'a vu par rapport à l'endométriose, par rapport aux règles, etc. On a tendance à minimiser complètement les douleurs des femmes autour de ces sujets, à ne pas du tout prendre en considération leurs douleurs, leurs ressentis, etc. Et on les ramène à cette possibilité ou non de procréer. Moi, on m'a quand même dit, au moment où j'étais pliée en deux au kétoprofène dans mon lit, que 48 heures par mois, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Enfin, c'était vraiment affreux. Avant que je trouve d'autres solutions alternatives, j'ai eu quand même un discours d'une professionnelle de santé qui m'a dit « Mais vous avez déjà eu un enfant, donc c'est déjà ça, quoi. Je veux dire, si vous voulez pas d'autres enfants, finalement, c'est pas si grave, parce que le plus important, c'est de savoir que ça a pas atteint votre fertilité, quoi. » Et là, vraiment, genre, je me suis dit « Mais en fait, on en est là. » C'est-à-dire qu'on se demande si ça vaut le coup de prendre en charge la douleur et l'inconfort d'une femme, uniquement si ça vient toucher sa possible fertilité ou stérilité et que ça viendrait compromettre son rôle de future mère, quoi. Donc c'est assez représentatif quand même, je pense, de ce qu'on attend d'une femme dans notre société et ce qui est encore hyper induit. Alors bien sûr, on entend des discours nouveaux, on parle enfin de ces femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et qui le clament haut et fort, qui ont recours à des stérilisations définitives, etc. Mais ça reste quand même hyper marginal et quand on voit les réactions que ça peut susciter sur les réseaux, etc., on se rend compte que c'est quand même un discours qui n'est pas encore totalement intégré et admis par la plupart d'entre nous. Enfin, je sais pas si on peut dire d'entre nous, parce que nous, je pense que ça va. Ici, sur ce podcast, on a plutôt l'esprit ouvert, mais on va dire la plupart des gens. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous parler de notre cheminement par rapport à la parentalité, la décision d'avoir un enfant, de n'avoir qu'un seul enfant unique et notre processus, pourquoi on a fait ce choix et nos réflexions autour de tout ça. Bien sûr, je fais cet épisode solo, mais je suis totalement en accord avec Samuel et il est totalement en accord avec moi. On est totalement alignés sur cette décision-là et heureusement, puisque quand même on a pris des décisions et notamment lui qui a pris une décision d'avoir recours à la vasectomie, donc ce n'est pas un acte anodin et il en parlera mieux que moi. Hein. Il a fait pas mal de contenu sur ses réseaux à ce sujet. Mais bref, du coup, quand on a décidé d'avoir un enfant, Gaspard, c'est allé très vite, je suis tombée enceinte très rapidement et j'estime vraiment la chance qu'on a eue parce qu'on n'a vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on a eu la possibilité d'être parent et de réaliser notre souhait très rapidement. Il y a eu cette grossesse qui s'est plutôt bien passée, même si la fin était un peu dure, mais bon, comme beaucoup de mamans, c'est vrai que je n'ai pas particulièrement aimé être enceinte, mais bon, ça ne m'a pas dérangée, mais ce n'est pas un moment que j'ai particulièrement apprécié. J'avais l'impression d'être quand même assez diminuée. Puis il y a eu le postpartum avec un accouchement plutôt difficile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait tout un épisode de Bliss sur le sujet. Je vous le mettrai en description de cet épisode si jamais ça vous intéresse. Ça a été assez hard parce qu'on avait vraiment un projet d'accouchement à la maison physiologique et ça n'a pas pu être possible. Donc forcément, ça a bousculé un peu nos plans. Écoutez, Gaspard était en bonne santé, j'étais en bonne santé et je m'en suis plutôt bien remise après quelques mois. J'ai quand même eu un postpartum assez compliqué et j'ai vu mon corps vraiment souffrir. J'ai quand même eu 14 points d'épisio, j'ai eu une déchirure, enfin vraiment pas de trucs hyper cool qui ont fait que après la grossesse j'ai eu quand même ces douleurs pendant un petit moment. J'ai eu une candidose mammaire, j'ai eu des crevasses liées à l'allaitement, on a dû couper le frein de langue de Gaspard, enfin bref, tous les petits trucs du postpartum que ça implique. Et puis on a eu aussi la réalité des choix que nous avions envisagés, à savoir d'être dans une parentalité un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre partout. C'était un peu en marge de ce que nous on avait vécu en tout cas en tant qu'enfant. On sait que nos familles n'avaient pas forcément fait ces choix-là, mais nous, ça a été une évidence après de nombreuses recherches et de nombreux questionnements autour de tous ces sujets-là. Ça paraissait évident, en fait. Pour nous, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a choisi notamment d'allaiter Gaspard. Enfin, j'ai choisi d'allaiter Gaspard jusqu'au sevrage, alors pas naturel, mais jusqu'à 2 ans. En tout cas, je voulais pas qu'il ait besoin d'avoir un lait artificiel ou infantile, en fait. Donc, jusqu'à 2 ans, je l'ai allaité. Ensuite, l'alimentation a pris le relais avec des sources de calcium différentes et une alimentation plutôt variée pour combler ses besoins. On a fait le choix aussi du cododo, de ne pas le laisser pleurer pour s'endormir, dormir. On a fait le choix aussi de respecter totalement ses besoins. Donc Gaspard, c'était un bébé qui détestait la voiture, qui ne supportait pas la poussette, qui avait vraiment besoin d'être en portage très souvent, d'être contenu, qui avait un réflexe de Moreau. Donc vous savez, le fait qu'un bébé, quand on le pose par exemple dans son lit, il va lever les bras très fort. Il avait un réflexe de Moreau très important, ce qui fait qu'il ne dormait pas allongé. Il fallait absolument qu'on l'ait en écharpe ou en portage. Sauf que moi, avec le postpartum que j'ai eu, c'était surtout Samuel qui le portait beaucoup en écharpe. Enfin, bon, voilà, on a eu quand même, et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, et je pense qu'on s'en est rendu compte quand on a vu d'autres amis avoir des enfants qui eux-mêmes nous ont dit « Waouh, vous avez vraiment quand même bien galéré ». Et je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé, et le podcast, c'est une place, une safe place. Je voulais faire une traduction qui n'a pas marché, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une safe place pour moi où je peux un petit peu parler de tout ça, et surtout parce que j'ai beaucoup plus de recul. Gaspard va bientôt avoir 6 ans, et j'ai vu d'autres bébés autour de moi. Gaspard avait des besoins intenses en tant que bébé. Un bébé a des besoins qui sont quand même très élevés. Hein. Je veux dire, on a souvent tendance à se dire, oh là là, mais mon bébé n'est pas comme les autres. Pourquoi je me réveille 15 fois par nuit? Pourquoi il a tout le temps besoin de mes bras, etc. Ça, c'est des besoins qui sont naturels et physiologiques. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué dans notre société à entendre que un bébé, ça a besoin en fait de contact, ça a besoin d'être porté, ça a besoin d'être rassuré, ça a besoin d'être contre son parent, ça a besoin d'être au chaud, d'entendre les voix, le battement du cœur, etc., etc. Et on n'est pas, et ça n'a rien d'anormal de combler tous ces besoins-là, et ça on en était totalement conscient. Mais c'est vrai que Gaspard, par rapport au sommeil, surtout, c'était vraiment, vraiment, vraiment intense. Il a fait sa première sieste posée à l'âge de 16 mois, et avant, il était absolument impossible de le poser plus de 20 minutes. Voilà, bon, je vous passe tous les détails de tout ce qui a pu être mis en place, les bruits blancs, le berçage, la voiture, les balades, la poussette à l'intérieur, le portage en long, en large, en travers, etc. Donc au final, on s'est dit que c'était son besoin à lui, et donc on l'a porté jusqu'à ses 16 mois, jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire une sieste dans son lit, et puis après moi j'ai dormi avec lui jusqu'à ses 2 ans, etc. Et je vous dis pas tout ça dans un but de me plaindre de quoi que ce soit, vraiment on est fondamentalement heureux de l'avoir fait, et si c'était à refaire on referait exactement pareil. C'est justement parce qu'on a fait ces choix là dès le départ, de se dire on veut répondre aux besoins de notre enfant au plus proche de ce qui est possible de faire, tout en prenant en compte bien sûr notre propre santé mentale, nos limites, etc. Et tout l'intérêt d'avoir aussi du relais. On a eu cette chance, ce luxe de pouvoir être à deux, de pouvoir se passer le relais, de pouvoir se partager la charge mentale qui aussi incombe à une famille, hein, avec le linge, la cuisine et tout ce qui s'ensuit, les courses, et voilà, je vous en passe. C'était possible parce qu'on avait cette organisation dans le couple, et j'en suis totalement consciente. C'était vraiment un choix de départ, et je pense que si on n'avait pas eu cette discussion, même en amont, pendant ma grossesse, etc., on n'aurait peut-être pas eu la possibilité d'être autant investi et autant en accord sur ce qu'on voulait pour notre enfant, parce que dans les moments difficile, avec la fatigue, avec les hormones, avec tout ce que ça induit aussi comme peur, quand on est jeune parent, surtout parent pour la première fois, on passe vraiment des moments difficiles pour le couple, et nous on a eu des moments difficiles pour le couple, hein. Vraiment, là je vous le fais façon résumée, mais vraiment on a eu des moments difficiles parce que la fatigue, parce que le doute, parce que ça fait beaucoup, et c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Mais en tout cas, on savait ce qu'on ne voulait pas faire, et ça nous a aidé aussi à prendre des directions par rapport à notre accompagnement et pour Gaspard. Donc on a investi énormément de notre énergie, de notre temps, de notre amour, et je pense que ces choix-là, dans une société qui n'est pas du tout faite pour prendre soin des parents, pour prendre soin des jeunes parents, que ce soit par le congé parental qui est quasiment inexistant, l'accompagnement qui est vraiment à revoir sur plein de points, sur la façon dont on parle des enfants, où on met à jour les connaissances, où on instruit aussi et on éduque autour de justement tout ce qu'on sait aujourd'hui des besoins de l'enfant, du rythme de l'enfant, etc., etc. À ça, on ajoute toutes les injonctions qu'il y a pour les mamans, hein, à savoir le corps notamment. Quand on vient d'accoucher, 3 mois après, on devrait retrouver notre corps d'avant-grossesse, si ce n'est mieux. On doit surtout ne pas s'oublier, ne pas avoir une maison dérangée, toujours être dans la féminité, donc à savoir plaire aux autres et être toujours objet de désir, etc., etc. Alors, on ajoute tout ça à la charge mentale et à tout ce que ça incombe aussi de devoir reprendre le travail, etc., etc. Et on arrive à un taux de dépression postpartum qui explose, des divorces parce que, il faut le dire, c'est encore très, 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 très majoritairement les femmes qui portent aussi cette charge mentale. On est quand même dans une société où on ne prend pas soin des parents. Et on ne peut pas demander aux parents d'avoir, à mon sens, cette volonté d'accompagner d'accompagner les enfants, d'être dans un respect total de leur rythme, d'être dans une maternité proximale, d'être dans une parentalité bienveillante, etc. Quand à côté, rien n'est fait pour prendre soin d'eux, en fait. Parce que c'est comme un réservoir. On ne peut pas demander aux parents de donner toute leur énergie pour être au plus proche des besoins de leur bébé et d'être à disposition avec le manque de sommeil, avec tout ce que ça implique, si à côté, personne ne prend soin d'eux. Et cette décision-là et cette philosophie de vie-là, nous, on n'avait peut-être pas imaginé que c'était autant intense quand on n'avait pas de secours et de recours à côté. C'est-à-dire que nous, en tant que couple, on savait dans quoi on s'embarquait, on savait pourquoi on le faisait, on savait que ça allait être dur. Moi, je m'étais dit que j'allais pas dormir pendant 3 ans parce que j'avais lu, parce que je m'étais intéressée à tout ça, parce que j'avais écouté des témoignages de parents, de mamans, etc. Mais concrètement, il y a eu un moment où on s'est dit waouh, mais comment on aurait fait si on n'avait pas eu des amis qui sont venus nous aider, nos parents qui sont venus nous aider, des ressources financières pour pouvoir se faire aider au niveau du ménage, de la maison, etc. Pouvoir se dire ah bah cette semaine on se commande à manger, on va pas faire les courses parce que là c'est trop compliqué, etc. Donc on a eu cette réflexion et cette réalisation de se dire on est privilégié, clairement. Et je pense que c'est important de le dire, que cette parentalité que je défends profondément, parce que c'est à mon sens le terreau d'une société moins violente, d'une société plus respectueuse, d'une société plus proche des besoins des humains en général et plus proche de ce qu'on est vraiment et de ce dont on a besoin intrinsèquement au-delà du matériel et de cette société capitaliste qui veut nous faire croire qu'on peut se remplir avec des objets, de la possession, des statuts sociaux, etc. Quand dès l'enfance on est au plus proche de ce qu'on a besoin en tant que petit mammifère, je suis persuadée que ça entraîne les futurs adultes aussi à être des adultes qui se rapprochent de ce qu'ils sont, et à savoir cette solidarité naturelle, cette ouverture d'esprit et cette nécessité de prendre soin d'eux, prendre soin de la nature, prendre soin des autres, etc. J'extrapole, mais c'est important pour moi de vous parler de cette réflexion d'un point de vue global. Et à un moment donné, on a fait le point sur notre vie, sur nos projets personnels, sur nos ambitions, sur notre couple, sur notre parentalité aussi, cette disponibilité qu'on avait auprès de Gaspard, cette possibilité après des journées difficiles de trouver des ressources pour être toujours dans la bienveillance, dans la patience, dans le fait de continuer à sortir, à faire des activités et d'être disponible d'un point de vue émotionnel mais aussi logistique quelque part. Et on s'est dit ok, cet équilibre qu'on a trouvé après des années, je pense qu'on a trouvé cet équilibre aux alentours des 4 ans de Gaspard, donc c'est quand même assez jeune. On s'est dit est-ce qu'on a envie de le remettre en question et de le réajuster ? Et la réponse a été non. En fait, on s'est dit aujourd'hui on a trouvé cet équilibre et on ne pense pas qu'on puisse ajouter à notre quotidien, à notre vie, à notre équilibre, un autre enfant parce qu'on sait les ressources que ça demande quand on veut avoir la parentalité, le style de parentalité qu'on a aujourd'hui, dans la société qu'on a aujourd'hui, avec notre métier, avec nos ambitions professionnelles, avec notre responsabilité aussi, parce que demain on arrête de travailler, nous on ne gagne plus d'argent, ni l'un ni l'autre, on est quand même dépendant de nous-mêmes. Et donc, en faisant le point sur tout ça, on s'est dit, ok, je pense que pour être en accord avec nos valeurs, pour continuer à avoir une vie épanouie et alignée avec ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, pour notre couple, pour notre foyer, pour notre enfant, il n'est impossible d'ajouter à nouveau cette responsabilité, cette charge, cette fatigue, cette instabilité, avec tout le bonheur que ça représente. Parce que, évidemment, ça a été la plus belle chose qui nous est arrivée sur Terre. Mais on a pesé concrètement la responsabilité que ça impliquait et les ressources que ça nécessitait. Et quand on s'est posé cette question et qu'on a réellement eu des discussions par rapport à ça, on en est venu à la conclusion de se dire on préfère avoir un enfant et être totalement certain de pouvoir être disponible pour lui comme on le souhaite, d'avoir cette parentalité qui est alignée avec nos valeurs, avec ce qui nous semble juste et bon pour notre enfant, plutôt que de se dire on va répondre aux attentes de on ne sait pas qui, on va se relancer dans cette aventure-là parce qu'il faut répondre aux besoins de on ne sait pas quoi. Moi, on m'a quand même dit ouais, mais quand même, c'est pas cool pour Gaspard, il aura pas de frères et sœurs. On fait pas un autre enfant pour faire un frère ou une sœur à son premier enfant. Je veux dire, ça ne peut pas être la seule motivation. On fait pas un deuxième enfant pour se dire oh, ouais, mais c'est plus sympa quand même, 4, ça fait un nombre pair. On m'a quand même sorti ça, moi, quand même, un jour. Et là, je me dis, mais en fait, quelle est la responsabilité que vous placez dans le fait d'avoir un enfant ? Parce que moi, personnellement, encore une fois, c'est un choix personnel et c'est une réflexion personnelle. Avoir un enfant, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Et je suis suffisamment en connaissance de qui je suis, de qui est Samuel, de qui nous sommes en tant que couple, que foyer, pour savoir que actuellement, avec notre style de vie, on a la possibilité d'être totalement dédié à notre enfant et de répondre à ses besoins à 100%. En tout cas, on essaye du plus profond de notre cœur et on fait de notre mieux. Mais demain, je ne suis pas certaine qu'avec un deuxième enfant, ce soit autant possible. Et je n'ai pas envie de risquer ce déséquilibre et je n'ai surtout pas envie de faire différemment qu'avec Gaspard. Donc, ça a été évident pour nous, suite à ça, de se dire, bah écoute, on est raccord, on est totalement aligné sur les raisons et les objections qui font que cette décision est évidente pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et Samuel s'est dit, mais en fait, pourquoi pas la vasectomie ? Je sais même pas comment on a commencé à en parler. Peut-être que je lui ai envoyé un truc ou que lui m'a parlé d'un truc. Je sais plus comment exactement c'est venu sur le tapis, mais ça a été une évidence. Et on s'est dit, mais ouais, en fait, c'est une tranquillité d'esprit. C'est un partage en fait aussi de la charge contraceptive. Et ça a été la décision qui a permis aussi d'être apaisée par rapport à notre vécu. Parce que moi, je suis déjà tombée enceinte 3 fois. Il y a une grossesse qui a été poursuivie, mais je suis tombée enceinte 3 fois dans ma vie. Donc, j'ai déjà eu ce questionnement de me dire est-ce qu'on a un deuxième enfant ? Et en fait, on le sentait pas du tout. Et ça n'a pas du tout été une décision difficile parce qu'on était vraiment alignés avec ces réflexions en fait et cette philosophie. Et donc, les choses ont suivi. Samuel a eu recours à sa vasectomie et ça s'est très bien passé. Et on a donc fait ce choix-là. Je vais terminer sur une question qu'on me pose souvent. On me dit mais comment tu es sûr ? Comment tu es sûr que tu veux pas d'autres enfants ? Comment tu es sûr qu'un jour tu vas pas te réveiller en disant oh là là, mais si maintenant je sais que j'en veux un deuxième, je sens que je suis au contraire dans un moment de ma vie où je suis disponible pour accueillir un deuxième enfant, etc. Et très souvent, moi je réponds, mais en fait, on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire que ça ne vous viendrait même pas à l'idée de dire à une maman qui vous annonce sa grossesse, mais attends, mais comment t'es sûr que t'en veux un ? Comment t'es sûr que tu veux un enfant ? Personne pourrait répondre à cette question parce que on peut jamais être sûr et c'est toute l'incertitude aussi de la parentalité. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle et dans la projection qu'on a de notre vie et de nos projets, on sait qu'on n'en veut pas un deuxième et pour toutes ces raisons, on est totalement en accord avec cette décision. Voilà pour cet épisode, j'étais contente de vous parler de ce sujet, ça faisait longtemps que je voulais prendre la parole à ce propos. J'espère que cet épisode vous aura plu, encore une fois c'est une réflexion personnelle et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous dans les commentaires sur Take Care, en message privé, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à dans 2 semaines et à très vite. Ciao, ciao.
Un grand merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, nos coachings en ligne vous attendent sur takecare.co. Prenez soin de vous. À très vite.